sort et se confronte donc au grimoire de Dr. Ross.
Voilà. Et bien sûr, quand on arrive au bout d'un grimoire, il est hors de question de le jeter ou de s'en débarrasser, puisque le grimoire est vivant, donc on lui donne à manger un peu de papier supplémentaire pour qu'il dévore rapidement, pour qu'il ait de nouvelles pages à remplir. Voilà.
Sophia, c'est très différent, c'est
when I was creating this, there had to be a lot of rules because otherwise we would break the world. So it has to be an object that fits through the pages. And Gutenberg realized some books are too dangerous and have to be locked. But it still allows so much possibility and so much imagination that you can tap into all of these books throughout history. All of this imagination of Belgique, c'est Brice la Belgique, juste beaucoup plus concret, qu'on peut prendre au sens propre en fait. Dans cette série, les livres sont véritablement magiques. Alors, cette magie a commencé, ou du moins tout le monde pense dans l'univers de la série que ça a commencé avec Gutenberg, qui à l'époque, quand on l'a imprimé, à l'époque était un sorcier, mais un sorcier qui n'était pas très très doué. Il a découvert qu'en produisant des livres en masse, des livres identiques, et que si les gens les lisaient, en fait, ils pourraient puiser dans leur imagination, dans leur émerveillement, dans la croyance qu'ils avaient en l'histoire qu'ils lisaient. Et c'est un peu une expérience qu'on a tous eue. On lit un livre et on se dit, waouh, c'est, on imagine ce qui se passe, on se dit, waouh, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Et dans l'univers de la série, Gutenberg et ses bibliomanciens peuvent puiser dans cette énergie, et lui, il va se dire, mais oui, moi, je peux faire ces choses-là. Alors, pour établir cette magie, il a fallu que j'établisse un certain nombre de règles, parce que je me suis rendu compte que je pourrais mettre fin au monde et que ça pourrait créer tout un tas de problèmes très très vite. Et notamment, il y a des règles, par exemple, l'objet qu'on puisse à travers le livre doit être un objet qui doit rentrer, qui doit être plus grand que le livre. On ne peut pas tirer un avion de chasse. Également, assez vite, on se rend compte qu'il y a des livres qui sont trop dangereux, donc il faut les verrouiller, et c'est des livres dans lesquels on ne peut pas puiser. Mais même en faisant ça, ça m'a permis tellement de choses et de puiser dans tellement d'imagination, ça m'a donné l'occasion de puiser et de jouer avec des livres à travers toute l'histoire humaine, de puiser dans l'imagination de tellement d'auteurs. Et ça a été une série véritablement stupéfiante et géniale à écrire pour moi parce que ça m'a permis de jouer avec toute l'histoire de la littérature. J'ai pu jouer avec des livres de collègues, de pères, d'amis, mais aussi avec des livres qui remontaient à des siècles. Et là, ça s'est véritablement terminé en une espèce d'immense lettre d'amour à la science-fiction, à la fantasy, à l'imaginaire, aux lecteurs, aux auteurs, aux bibliothécaires et à nous tous qui aimons les livres à la lecture.
C'est effectivement un formidable concept que de pouvoir ainsi avoir accès directement au pouvoir au pouvoir des livres qui nous ont tant fait rêver. Et puis ça permet un jeu sur beaucoup d'autres thèmes du surnaturel. On va pouvoir être possédé par un livre, on va pouvoir avoir des personnalités qui sont encloses dans des livres. Et là encore, ça fait écho à ce qu'on trouve dans vos propres ouvrages.
Sometimes it's a small thing. Somebody will reach into a copy of Twilight and get bitten, and a week later they are a sparkly vampire. But sometimes for the Libramancers who do this a lot, it's a form of possession, and they're possessed by these characters from the books. There's one in the first book who gets infected with characters from Sherlock Holmes and from a biography of another character that I won't tell you because it would be a spoiler. But when Isaac is confronting this person, he ends up quoting Sherlock Holmes lines in order to interact with that facet of the possessed Libramancer. And it's, again, it's so much fun. It's another way of bringing the books into our world and having that direct, real interaction. That, you know, possession is not good, but it's still really cool.
À nouveau, l'idée c'était de prendre l'aspect concernant le livre et la lecture et de finalement le prendre au pied de la lettre, de le mettre en scène de cette façon. Par exemple, quand on lit un livre fréquemment, il arrive qu'il y ait des
certains bibliomances, mais ça peut être beaucoup plus grave, ça peut être une forme de possession où les personnages des livres vont se mettre à posséder le bibliomancien. Par exemple, dans le premier tome, à un moment, Isaac, le héros, rencontre un personnage qui est possédé par un personnage venu de Sherlock Holmes et par d'autres personnages, notamment la biographie de quelqu'un, je vous dirai pas qui, parce que ce sera un spoiler. Et donc, pour interagir avec ce personnage qui est entre autres affecté par un des personnages de Holmes, il se met à lui citer les répliques de Sherlock Holmes pour essayer d'interagir avec cette facette du bibliomancien qui est possédé. Et c'est tellement drôle et amusant à écrire de prendre ces livres-là et de les amener dans notre monde. Alors, dans le monde de l'histoire, la possession, c'est vraiment une mauvaise chose, mais par contre, c'est vachement cool à écrire.
I forgot one other aspect. Normally, you can't bring living things into our world because the mind breaks. You know, they're a character from a book. But there are exceptions. Isaac brings his pet fire spider, who in French is called Tikash, which I love. And he's just this little spider who sets things on fire. There's also a character who comes out of a book. Her name is Lena. She's a hamadryad. And she was brought through as a seed, as an acorn. And so she's this fantasy character who grew up in our world and turned into sort of a half-tree superhero character who is much fun.
Il y a un autre aspect que j'ai pas mentionné, c'est que normalement, on ne peut pas sortir de l'être vivant d'un livre parce que l'esprit brise sous la pression et la complexité de notre monde réel, mais il y a quelques exceptions. Par exemple, Isaac, le héros, a sorti d'un livre son araignée flamme apprivoisée qui s'appelle Titoche en français, et qui a, en gros, qui passe son temps, donc qui est une araignée magique, qui passe un peu son temps à faire voler des trucs. Et il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Lena, qui est une hamadryade, et qui en fait est apparue dans le livre à la base sous la forme du gland en chêne. Et l'arbre a grandi, et il y a eu donc un personnage vraiment totalement de fantasy, mais qui a grandi dans notre monde, et qui finit par être une sorte de super-héros demi-arbre, et qui est vraiment extrêmement amusant à écrire.
Sophia, dans un style donc très différent, votre personnage de l'Eugénique est violemment possédé par un autre esprit. C'est des scènes qui sont très très fortes à lire parce qu'on ne sait pas, il ne sait pas ce qui lui arrive et nous non plus. Et c'est vraiment là une intrusion qui est quelque chose d'une brutalité inouïe. Et il y a l'idée qu'un livre. Qu'un livre peut contenir une personne. Une personne peut transférer, qu'une personnalité peut être transférée dans un livre, puisque c'est ce que fait Jévic en réussissant à écrire son histoire. Et vous, en nous racontant cette histoire.
There's a big question in the book. There's a conflict in the book really between literature and life. And there's a question of, okay, I can write something, I can write about a person.
c'est le livre lui-même qui a cette personnalité.
Alors, le livre a une personnalité, mais par exemple, dans le cas du grimoire, c'est ça. Quelquefois, les sorciers, sorciers et sorcières sont un petit peu des écrivains. Et en fait, le grimoire est une extension de leur personne. Donc, par exemple, dans les poisons de pétards, il y a Dame Grasse, qui est quand même une sorcière avec un très fichu caractère. C'est aussi pour ça qu'elle a un grimoire qui se défend avec une férocité. Évidemment, le grimoire de Dame Grasse, c'est quelque chose d'un objet très puissant que tout le monde veut acquérir. Et quand d'autres gens essaient d'avoir accès à ce livre, on essaie d'avoir accès à l'âme de la sorcière. Donc, évidemment, le livre se laisse pas faire. Mais voilà, là, je pars un petit peu sur des livres qui ne sont pas encore finis d'écrire. Là, par exemple, je suis sur un autre roman où je suis sur une assez vieille sorcière qui a perdu la mémoire. Et le grimoire, en fait, c'est en grande partie effacé parce qu'il est lui aussi en train de mourir, en fait. Donc, je le vois vraiment un peu comme si les sorciers étaient des écrivains et que le livre est, leur livre est tellement relié à leur vie et à eux-mêmes qu'ils vivent et ils meurent en même temps qu'eux. D'accord. Alors, j'ai un bon livre immortel dans mes romans.
Alors, on voit la variété qu'un même motif est capable de prendre. C'est assez formidable. Vous insistez tous les trois sur une matérialité du livre, sur l'objet du livre. Dans les poisons de Catharsis, c'est cette image du Scrabble, par exemple. les lettres elles-mêmes ont une vie indépendante.
Oui, c'est-à-dire quand on essaie de lire le grimoire, entre autres brûlures, jets d'acide, et je ne sais plus exactement ce qu'il fait sur celui-là, mais enfin, j'en ai d'autres qui font d'autres choses. Et là, quand on essaie vraiment de lire le livre, quand le sorcier qui essaie de l'ouvrir finit par y arriver, les lettres se cassent la figure en bas de la page, en fait. Pour vraiment empêcher la lecture pour de bon.
Chez Sophia, moi, une des scènes que j'ai préférées, c'est la scène où j'évite enfant découvre les livres donc, de dans cette société où il n'a jamais eu accès à cet objet. Donc, il n'a aucune idée de ce que ça peut être. Et donc, là, il se retrouve face à un rectangle mystérieux avec des espèces de traits noirs à l'intérieur. Et c'est vraiment au lecteur de reconstituer ce qui est en train de se passer.
Yes, so in Jeffic society, they don't have the idea of writing language. However, they do keep records of numbers. And his father is a merchant, and they record, you know, just marks for the numbers of things sold and the amounts they received with a piece of hot iron on a big wooden block.
Dans la société dans laquelle ils vivent, en fait, ils ne connaissent pas du tout l'écriture, ils ne connaissent pas les livres, mais ils ont quand même une façon d'enregistrer les choses puisqu'ils connaissent les nombres. Jésus qui est le fils d'un marchand d'épices, donc il y a un commerce, et donc il faut bien effectivement enregistrer les ventes et tenir des comptes de ce commerce. Et donc ils utilisent en fait des nombres qu'ils vont graver sur des morceaux de bois à l'aide de pièces en fer chauffé, en fait, donc une sorte de chronogravure pour tenir compte justement pour enregistrer ces nombres.
situation, c'est en montrant quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que peut être ce pouvoir-là. Et du coup, ça nous le remet sous les yeux de manière très, très frappante en passant par l'imaginaire. C'est un des pouvoirs des littératures de l'imaginaire que de permettre ça.
I think that reading is magic. I think all of us here, all of us know that.
Je pense effectivement que la lecture c'est magique et je crois que nous tous, on le sait, on l'a déjà vécu.
Divine, il y a aussi dans la même ordre, bien sûr, dans la série Magie, l'explication travaille sur la matérialité du livre, puisque le principe c'est que justement il faut que ce soit des exemplaires identiques. Donc il y a la question des éditions précises qui doivent être. On va laisser sortir la place. La classe, Je pense à ça en voyant la tablette de Lionel Dabout. Dans le deuxième volume, qui est le dernier à être paru en France, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire avec les livres numériques. Est-ce que ça va permettre du coup d'avoir accès à tous les livres à tout moment? Comment apprendre à exercer la magie des livres avec ce nouveau support?
Centuries ago, when Gutenberg started libromancy, he worked under the assumption that the more physically identical the books, the better the magic works. It was a form of sympathetic magic, like where you build a model of something in order to magically affect the real thing. Here, those identical books, as more people read it, it created a magical resonance that he could choose one copy and tap into the belief of all of the other copies of that book. Fast forward to the present day, it does get much more complicated. We have different editions, we have different translations. People will ask me, well, if I read the French version, can I tap into all of the power from the English version or the German version? And I say no, because the German version didn't sell very well. Nobody read it. But in general, yes, but it's weaker. It doesn't work as well. And the conventional wisdom is ebooks don't work. They are going to hurt libromancy because there is no physical permanent object here. And so Gutenberg and all of these older libromancers know that ebooks will never work. And I love that in book two, we get a teenager who starts using ebooks for libromancy because she doesn't know any better. And it's one of the things that was so much fun was building the system of magic and then treating it the way we treat science, which is to recognize we don't actually know everything. Sometimes we think we do. And then along comes some teenager who says, nope, I can do this. And it opens up this whole new world of possibility. The first time she did it, she pulled a snake out of her cell phone in math class. So larger tablets, we've got the entire library, like you said. What if we project an ebook onto a movie theater screen? Can we pull a spaceship through? And I love there's so much possibility. And in the meantime, all of the older libromancers say, how do you do that? That's not supposed to work.
Alors, en fait, il y a des siècles, la façon dont ça s'est passé, c'est que Gutenberg a inventé la bibliomancie en partant du principe que plus il y avait un grand nombre d'exemplaires physiques d'un livre qui était identique, la magie serait puissante, une forme de magie sympathique, où
sur les états des libraires dans la ville du livre, mais parce que manifestement, les épicites des auteurs lecteurs, c'est-à-dire des auteurs inspirés par leur lecture et dont le processus d'écriture est en partie une réécriture. Audrey, est-ce que confirmer ce sentiment que vous inscrivez dans une tradition déjà de la fantaisie humoristique avec bien sûr Terry Pratchett, avec les Troy d'Ariston et que c'est dans cette sur ce modèle-là qu'à votre tour vous écrivez.
Bon, alors, évidemment, complètement. C'est vrai que l'épouse dans le cadavre, c'est complètement pratchettien. D'ailleurs, le fait que je me sois retrouvée en train d'écrire le dernier tiers du livre au moment où il est décédé, ça a eu une résonance très, très étrange.
Il y a une note de la page qui le dit, qui est très.
C'est-à-dire, en fait, moi, je vais écrire dans un salon de thé. Et en fait, j'y vais pour surtout avoir accès à Facebook, parce que sinon je travaille plus. Et donc, là, c'est assez chiant d'une cave, personne ne peut me contacter sauf mon nom, me chercher, parce que ça ne joue pas de rien du tout. Et je suis rentrée à l'atelier de Ferdinand, qui est un atelier d'artiste où je travaille, en fin d'après-midi. Et j'arrive, et dans le couloir, j'ai un collègue auteur qui me dit: tu as vu la nouvelle, Terry Pratchett est mort. Et je savais qu'il était très malade, évidemment, mais j'étais convaincue qu'il lui restait encore quelques années, en fait. Et ça m'a fait un choc épouvantable. Je me suis enfermée dans mon bureau pour pleurer. Et c'est vrai qu'après, j'ai fini le bouquin. C'était déjà un peu un livre hommage. Mais j'ai vraiment fini le livre, pour le coup, en essayant d'être encore plus drôle, parce que le maître était mort. Et mon fantasme, je pense que quand on commence à écrire en tant qu'auteur, on a tous des fantasmes puissants, des choses qui n'arriveront jamais, mais qui est la raison pour laquelle on écrit. Et moi, je rêvais que mon livre soit, mes livres, puisque j'en fais d'autres, soit traduit un jour en anglais, et qu'un jour sur un festival, peu importe, peut-être les utopiennes, peut-être ici, je croise Terry Pratchett, et qui me disent: hey, j'ai lu ton bouquin, en fait, j'ai bien rigolé. Et c'était mon fantasme d'auteur, en fait. Et là, d'un coup, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Bon, évidemment, c'était pas un fantasme très, très, très viable. D'un coup, je me suis dit: ça n'arrivera jamais.
Et d'une certaine manière, voilà, vous prolongez sa mémoire en écrivant à votre tour des ouvrages qui sont des hommages à ce qu'il nous a apporté avec le monde.
Maintenant, vraiment que je m'en détache, mais c'est vrai que mon personnage de Dame Garas en particulier est un hommage à la Messire du Temps. Voilà. Je crois que ça c'est visible d'ailleurs. Tout le monde m'a dit: mais oui, ça peut s'assumer.
Donc là, ce que vous racontez, c'est une histoire de fan. Le rêve de rencontrer l'auteur sur un festival. Je dis ça parce que n'hésite pas
à... En fait, c'est marrant parce que après, j'ai reproduit. Parce qu'il y a les livres magiques, mais dans les poisons de 14, il y a un best-seller que tout le monde a lu, et dont tout le monde parle. C'est en fait le principe, c'est que tout le monde a lu un petit livre pour enfants qui s'appelle Les Aventures de Croc-Croc, le Croc-Mitaine. Et apparemment, ça arrive que tout le monde a lu, en particulier un personnage de Croc-Mitaine. Alors, les Croc-Mitaine sont des créatures assez féroces, pas très aimées. Ils se squattent derrière les poubelles, ils se planquent sous les lits, ils ont tendance à sauter sur les jambes des gens quand les gens se lèvent la nuit dans le noir, à leur dévorer les orteils et les doigts, puisque les croque-mitaines, comme son nom l'indique, aiment les manger les mains. Et en fait, c'est vrai que c'est un croque-mitaine qui, à chaque fois qu'il surgit, terrifiant, avec ses dents de travers, etc., tout le monde lui dit: ah, mais j'adorais les aventures des crocos, le croque-mitaine, quand j'étais petit, je suis tellement ravie de rencontrer un croque-mitaine, oh, ça me fait plaisir depuis des années. Vous savez, je voulais rencontrer un croque-mitaine depuis des années, et j'avais mis même des gâteaux au chocolat sous mon lit, il n'y en a jamais un qui est venu, j'étais tellement déçue. Enfin, c'est un rêve d'enfance, mais bon, mieux vaut tard que jamais, je suis quand même contente de vous voir maintenant. Et le croque-mitaine est bien embêté parce qu'on lui vient quand même pour bouffer les gens, et à chaque fois, c'est oui, mais alors vous savez, non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on écrit dans les livres, c'est pas tout à fait comme ça. Et donc voilà, il y a aussi ce rapport de fan, en fait, à l'intérieur du roman où tout le monde a le même best-seller. Il n'est pas forcément de télévision, voilà.
Jim Hines, vous revendiquez une pratique de la fanfiction. Vous avez eu le plus gros de la meilleure fanfiction, c'est ça?
series of photos of me online. C'est-à-dire les meilleurs textes écrits et contribués sur le genre, sur la communauté de la science-fiction, etc. Et c'était entre autres pour mon blog. Et pour être honnête, beaucoup de ce prix vient du fait que j'ai écrit toute une série qui visait à critiquer les couvertures de livres, notamment la façon dont les femmes sont représentées sur les couvertures de livres. Et donc, notamment, je l'ai fait en posant sur tout un tas de lignes de couverture de livres, utilisant les mêmes poses que ce qu'on pose outrageante. Parfois, et surréaliste et absurde, qu'on a sur les livres de science-fiction, justement en posant avec ce genre de exactement de même pose, mais en le faisant moi et en ayant cette espèce de pose afficheuse.
Donc, une pratique de la réécriture assumée, notamment pour les deux séries qui ont précédé celle-ci, le Gobelin et les histoires de princesses, et notamment le Gobelin. Aussi l'ombre de Terry Pratchett qui est bien présent.
I hope so. I would be honored if people read those Gotland books and said, this reminds me of Terry Pratchett. I get that in reviews occasionally, and it means a lot. I would not presume to say I am writing like Terry Pratchett, because I'm not. I am not that good. I am not that smart. But if there is resonance, then that is flattering.
J'espère. Je suis vraiment honoré parfois. Enfin, je serais honoré si on lisait les livres complets avec Jim Gobelin. Et si le lecteur se disait, tiens, ça me rappelle Terry Pratchett, ça m'honorerait. Parfois, dans certaines critiques, c'est mentionné et ça signifie énormément pour moi. Je présumerais certainement pas vous dire que j'écris comme Terry Pratchett parce que je ne suis pas aussi bon et je ne suis pas aussi intelligent. Mais si on prouve qu'il y a une résonance dans ces livres, alors ça me flatte énormément.
Alors, on avait ici une lignée commune de fantaisie humoristique, donc avec sure, but he's a fantastic, very, very strange writer. And then on the other side, you know, other kinds of literature, in particular, Proust was very influential to me in terms of the sentences and the way that I write. Also Marguerite Duras, and also all of the other modernist writers, so Faulkner and Virginia Woolf. And so that's another stream that's kind of combined together with the fantasy stream in my writing.
Alors, en fait, en termes d'influence, j'ai deux grands types d'influence, grands courants, si on peut dire, qui m'ont vraiment influencé. D'abord, évidemment, Tolkien, que j'ai lu quand j'étais petite. Et moi, ça m'a vraiment émerveillé, toute cette fantaisie épique avec tous ces pays, toute cette cartographie, toutes ces langues. Donc, forcément, ça a joué sur mon imaginaire. On peut citer aussi Ursula Le Guin, Kevin Peake, donc toute cette influence de la fantaisie. Et puis, d'un autre côté, il y avait une littérature plus générale, avec des textes vraiment littéraires, avec une très forte influence de Proust, notamment à travers la façon dont il construisait ses phrases et dans son style très particulier. Marguerite Duras aussi m'a beaucoup influencé. Et puis, des auteurs modernes comme Virginia Woolf, Faulkner. Et donc, ce deuxième courant d'influence a forcément joué sur ma façon d'écrire.
Alors, un mélange dont on n'a pas forcément l'habitude de le voir pratiquer ainsi, mais qui donne vraiment des effets assez fascinants. Je vous le conseille. À la fin des magies avec Ex Libris, il y a des bibliographies. Donc voilà, on peut se rappeler tous les ouvrages qui ont été cités et qui ont été utilisés au fil de l'histoire. Alors, objectivement, on y trouve beaucoup plus de SF et de fantasy et de fantastique, mais bon, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont plus puissants, parce que c'est, voilà, si on va piocher la Madeleine de Proust à l'intérieur, on pourra toujours, ça pourra servir à combler une petite fin, mais l'anneau de Tolkien est tout de même plus tentant pour un magicien.
That is definitely part of it, yes. And the other part is Isaac, the protagonist, is a geek. He is one of us. He loves science fiction and fantasy. So that's what he reads, that's what he draws on. There are other libriomancers in the stories who specialize in other areas. There's one who's a historian who can go through old historical texts and use them to recreate artifacts from centuries ago, to recreate things that maybe have been lost. Or in some cases, they can create forgeries and go around selling, oh yes, this is the real Hope Diamond, I've pulled it out of this book. But Isaac and the heart of the story is all about that love of science fiction and fantasy. And Isaac is a total geek, like me.
Oui, ça fait très clairement partie de la chose. L'autre partie de la chose, c'est que Isaac, donc le protagoniste, est un geek et qu'il est l'un de nous. Il aime la science-fiction, la fantasy, c'est ce qu'il lit et c'est ce dans quoi il puise. Alors, dans l'histoire, il y a d'autres bibliomanciens qui sont spécialisés dans d'autres domaines. Par exemple, il y a des historiens qui se spécialisent dans l'histoire ancienne, qui sont capables de recréer des objets qui peut-être même ont disparu depuis dans le fil de l'histoire.
livre.